Roger, Elisabeth va proposer une communication sur pourquoi créer des mondes, justement, et va nous expliquer peut-être le point de vue de l'écrivain hein, par rapport à ce qu'a pu dire le critique. Je présente Elisabeth, peut-être, hein, très rapidement. Alors, je présente Elisabeth pour le public. Elisabeth von Harburg est donc une romancière, novelliste, traductrice qui est née à Paris. Donc française, mais québécoise de cœur et d'esprit, je ne sais pas si on peut dire ça, Elisabeth, également connue sous le pseudonyme de Sabine Véraud. Je passe évidemment sur sa grande carrière. Je citerai simplement 1992, la parution de Chronique du pays des mers, qui a eu le prix Aurora, le prix Boréal et dans sa version anglaise, le prix Philippe Cadic, donc Mémorial. Le cycle Tiranaël entre 1995 et 1996, Reine de mémoire en 2005, qui est une saga. Elisabeth von Harburg est comparée dans la sphère nord-américaine à Anne McCaffrey ou Ursula K. Le Guin, et elle est traduite en anglais, en roumain, en japonais, en allemand. Voilà, donc nous sommes très honorés de sa présence et puis surtout d'avoir mené à bien la grande aventure de sa venue. Parce que ça, ce sont les dessous d'un colloque, mais je peux vous assurer que ça a été vraiment une aventure pour faire venir Elisabeth. Voilà, donc je suis très très contente de l'accueillir. Merci.
Oui, je ne savais pas quelle communication faire à ce colloque, et puis Roger m'a envoyé son texte. Et ma réaction m'a fait dire, ah bon, bah tiens, je vais lui répondre. Parce qu'il me semble, on l'a déjà remarqué, pour un écrivain être lu par des lecteurs, c'est toujours intéressant, des lecteurs qui sont capables d'articuler leur lecture, c'est encore mieux. Et il y a toujours quelque chose à apprendre là, et je me suis dit que c'est intéressant d'examiner l'écart qu'il y a entre le texte de l'auteur, c'est-à-dire le texte que l'auteur crée et lit, et le texte que crée et lit le lecteur, fut-il un universitaire. Alors pourquoi créer des mondes? Bon, je ne vais pas parler au nom de mes collègues, toutes les divinités se veulent uniques. La réponse première, c'est je crée des autres mondes, et le mot autre monde est important parce que j'aime faire de la magie. Ma première expérience de l'écriture avec mes petits cubes en bois, ça a été de rendre présent ce qui était absent. J'ai écrit « Mama » et « Papa », parce que les diphtongues, c'était trop compliqué, et de créer ce qui n'existait pas avant moi. Si on ajoute à ça un sérieux problème avec la réalité, puisque mon père a été pour moi une photo et un mot jusqu'à l'âge de 2-3 ans, et que quand je l'ai rencontré en 3D et avec le son THX, c'était « Wow, c'est quoi ça ?» Donc j'étais prédisposée en quelque sorte à créer, surdéterminée on dira, à créer des mondes parallèles. Mais ne soyons ni dupes ni prisonniers de nos métaphores, l'écriture ne crée pas des mondes, elle crée des illusions de mondes, des effets de réel par la manipulation sournoise du trou de l'ellipse, du recours à l'encyclopédie des paradigmes absents. Autant de pièges où elle prend le lecteur, ou bien on peut être plus convivial et dire autant de portes ouvertes par où le lecteur peut entrer dans le texte et y créer sa propre histoire. Mais c'est là que les problèmes commencent. Parce que si l'auteur lit sa propre histoire dans son texte, et en particulier dans les non-dits du texte, dans les blancs du texte, le lecteur, lui, est libre aussi d'y projeter la sienne, qui parfois a manipulé les noirs du texte, l'explicite. Et donc, lorsque Roger m'a communiqué son texte, j'ai eu l'expérience habituelle de « Ah oui, mais non !» qui est celle, en général, souvent, de l'auteur face à une lecture par autrui, surtout, dirais-je, par des universitaires, parce que les universitaires, si bons lecteurs fussent-ils, ont souvent un agenda, ne serait-ce que le titre d'un colloque, et ça peut produire des effets procustéens sur un texte, parfois douloureux, mais toutes ces conversations autour d'un texte sont toujours fécondes, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, aussi bien pour le lecteur que pour le lu. Alors vous serez comme des dieux. Bon, voilà, peut-être un titre, tout un programme. Disons désormais donc des divinités, puisque moi je suis œcuménique, je m'imagine la déesse et non le dieu de mes créations. Alors c'est quoi une divinité? Je me suis demandé, une divinité, c'est un être de pouvoir. Omnipotence, omniscience, pouvoir sur l'espace, le temps et la matière, y compris celle de l'esprit. Bon, tout ce dont les humains sont dépourvus, ils en dotent leur divinité. Ils sont mortels, elles seront donc immortelles. Ils sont créés, elle sera donc incréée, puisque c'est elle seule la créatrice. Bon, est-ce que c'est vraiment elle seule la créatrice? Mais les humains sont des créateurs aussi, ne serait-ce que parce qu'ils font des enfants. Et les écrivains sont également désignés comme des créateurs. Et c'est ainsi, par la magie d'un mot, que commencent toutes les dérives. Ce que j'ai découvert à 5 ans avec mes cubes, c'était le pouvoir magiquement créateur des mots. La première réponse à pourquoi créer les mondes a quelque chose à voir avec le désir et le plaisir du pouvoir en entremise des mots. C'est là que je suis partie. Mais la problématique du rapport au pouvoir est toujours délicate, surtout pour une femme. Nous ne sommes pas censés être le genre au pouvoir. Nous franchissons le seuil d'un interdit plus lourd que celui des hommes lorsque nous voulons et nous approprions du pouvoir, un quelconque pouvoir. Et donc, nous approchons le pouvoir avec circonspection. Nous le questionnons. Pouvoir sur quoi, sur qui et comment, surtout. Vous serez comme des dieux, c'est donc la tentation du serpent, c'est la bande de l'hubris. Et outre mon être femme, j'ai été élevée dans le catholicisme et avec les mythes grecs, ciel. Les questions se pressent de tous côtés. Comment ne pas glisser dans la pente? Comment ne pas abuser du pouvoir? Comment maîtriser la maîtrise? Quel est le juste équilibre? Quel est le bon dosage? Je vais commencer par les mondes de Bahi Blanca. Les mondes, puisqu'il s'agit en fait d'univers parallèles et non pas d'un cycle qui serait unificateur. C'est pas un lieu unique, c'est une espèce d'attracteur étrange à travers plusieurs univers qui sert à la fois donc aux nouvelles du pont, le joli coquille de Nautilus, et les nouvelles des artefacts et celles des métamorphes. Et ce sont des univers parallèles parce qu'il y a des nouvelles où on parle des artefacts sans jamais parler des métamorphes et inversement. Tous les textes traitant des artefacts tournent très clairement autour du motif de la création. Les métamorphes sont un peu différents, puisqu'ils résultent d'une mutation naturelle. Elles n'ont pas été créées par les humains, même si on les utilise, pour des créations secondaires. Mon ami Roger, c'est ainsi que je vais l'appeler désormais, mon ami Roger souligne à juste titre le rôle de Dieu que s'attribuent les scientifiques. Mais je perçois là, quant à moi, une certaine surlecture, dans la mesure où ce sont souvent les créatures, bien plus que les créateurs, qui sont les protagonistes, qui sont les personnages principaux. Il parle aussi de métamorphes, par exemple, comme Dieu caché, maître d'un consortium qui possède la ville. Eh bien, eux, pas vraiment, dit l'auteur. Voyons donc, non, mais non, ah oui, mais non. Les métamorphes ne sont pas vraiment des dieux cachés, au contraire, comme il l'a dit très bien dit, ce sont des objets d'expérience et des esclaves, en tout sauf en nom. Elles sont dominées et non dominantes. Il y a un seul métamorphe, effectivement, qui se reproduit lui-même d'une certaine façon, de père en fils faussement, qui est à la tête d'un puissant conglomérat, certes, qui ne possède pas la ville du tout, mais qui essaie de jouer au créateur. Et alors, comme le diable, il n'est qu'un manipulateur secondaire d'une création qui a eu lieu avant lui, la mutation, et dont il se voit lui-même comme victime, puisqu'il est un métamorphe honteux. Sa famille a très honte de lui, on cache sa nature et il est en révolte totale contre sa famille. Et ce créateur secondaire, un petit peu diabolique sur les bords, il est condamné à l'échec, comme tous les personnages de mes histoires, scientifiques ou non, qui essaient d'être Dieu. Une des questions auxquelles j'essayais de répondre quand j'écrivais Le silence de la cité au temps préhistorique, c'était si une manipulation est réciproque, ou accepter, est-ce que c'est encore une manipulation dans l'amour, dans la relation parentale, dans le rapport entre le lecteur et l'auteur? Est-ce que c'est encore une manipulation? Et le problème de ces créateurs secondaires que sont, par exemple, qu'est par exemple ce personnage, la manipulation est à sens unique. Il échoue parce que c'est une manipulation à sens unique. Il échoue parce qu'il abuse de la technologie aux dépens de l'éthique. Ils échouent, ces personnages de créateurs secondaires, parce que, humains trop humains, ils sont dupes de leurs propres désirs et craintes. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon usage, le bon dosage, le bon équilibre du pouvoir, la maîtrise de la maîtrise. Parce qu'ils ne peuvent donc être que des dieux faillis, comme le dit très bien mon ami Roger. La lecture de Roger me fascine aussi, dans la mesure où elle me pose problème, dans les textes touchant les artefacts. Il dit par exemple, une nouvelle voie s'est offerte pour reconstruire cette merveilleuse race humaine par le biais des artefacts. La reconstruction de la merveilleuse race humaine est dite sur un mode ironique par un des personnages d'une des nouvelles, parce que lui, il n'y croit pas du tout. Et quand il s'agit de reconstruction, il s'agit, pour moi, dans ma lecture du texte, il ne s'agit pas de ça. Pas vraiment. La biosculpture est et demeure une forme d'art. Les pouvoirs en place n'essaient pas du tout de la récupérer pour reconstruire quoi que ce soit. Dans les dents du dragon, certes, on fait des mélanges, les scientifiques tripotent. les matériaux utilisés pour les artefacts, les combine de manière d'ailleurs très fumeuse dans le texte avec de l'informatique et des gènes de métamorphes pour essayer de fabriquer des métamorphes artificiels. Mais toutes ces tentatives de manipulation folle échouent. Les créatures échappent toujours à leur créateur. Et par ailleurs, l'ambition de ce métamorphe cinglé, parce qu'il est complètement fou, n'est pas de reconstruire la race humaine. Pour des raisons très personnelles, il veut recréer des métamorphes dont la mutation est en train de s'éteindre. Dans Sang de pierre, qui est une autre nouvelle des artefacts, on a une autre image de savant diabolique. Il n'a pas de visée reconstructionniste non plus. Quand il croise un artefact avec un humain, c'est pour essayer de stabiliser les artefacts qui sont un petit peu instables. La race humaine, il n'en a rien à secouer. C'est un artefact lui-même. Dans l'un et l'autre cas, certes, ces personnages mégalomanes, qui sont, vous l'avez compris, des itérations du bon vieux savant fou de la science-fiction classique, s'arrogent effectivement des pouvoirs excessifs qu'on peut lire comme aspirant à être divin. Et, pour moi, ils échouent en conséquence. Non parce qu'ils veulent s'arroger des pouvoirs qui seraient divins, non, ce n'est pas des pouvoirs divins, mais parce que la fin est, pour moi, dans les moyens, et qu'ils les utilisent, ces pouvoirs, ces capacités, dans la démesure. Leur maîtrise, et surtout leur maîtrise d'eux-mêmes, leur connaissance d'eux-mêmes, est totalement illusoire. Ils ne maîtrisent pas leurs propres pulsions. Si on revient au texte Princesse, Janus, le biosculpteur Permalion, qui est délibérément conçu comme l'anti-Pygmalion, n'a pas non plus l'intention de reconstruire la race humaine. Quand il crée une statue qui est en tout point semblable à un être humain, il vise à être un parent humain, parce qu'il est stérile lui-même, et que la femme qu'il aimait et le bébé qu'il portait, qui n'était pas lui, sont morts dans un attentat. Il veut être un créateur humain en faisant des enfants, pas divin, même s'il crée cet artefact, je cite, pour qu'elle s'en aille, c'est-à-dire, c'est le libre arbitre, bien sûr, d'Adam et d'Ève, c'est un écho, pour qu'elle devienne indépendante de lui. Pas pour qu'elle aille reconstruire la race humaine, en tout cas, ce qui impliquerait un projet hubristiquement mégalomane, et donc, pour moi, suspect et condamné. Mon ami Roger dit plus loin que ces savants, individuels ou collectifs, cherchent à prolonger par ce qui fut au départ une richesse esthétique, une création à bout de souffle. Et alors là, l'auteur de Glapire lance. Même si l'art futur de la biosculptrice, créatrice, mère de Manou, implique de profondes connaissances scientifiques et technologiques, elle reste une artiste. Et elle n'entretient pas non plus de telles visées généralisantes. Elle veut surtout savoir si elle a réussi son pari de faire une créatrice à son tour, de refaire une créatrice, en lui donnant la possibilité de se reproduire. C'est ce que font aussi d'autres biosculpteurs individuels, mais ce n'est jamais un projet collectif, totalitaire, géré par un pouvoir politique ou un pouvoir scientifique à sa solde. Comme Permalion, la mère de Manou veut créer un être humain à part entière, dans son cas, capable de devenir à son tour une créatrice. Dans les deux cas, et là je suis tout à fait d'accord avec mon ami Roger, il y a prise de position divine, entre guillemets, mais comme elle est individuelle, pour moi, comme elle est individuelle et fondée sur une réciprocité affective, puisque la créature de Permalion, lorsqu'elle ouvre les yeux la première fois, le regarde, ce qui scandalise l'associé de Permalion, pour qui il devrait y avoir une hiérarchie, et Manou revient et pardonne à sa mère. Puisqu'il y a une réciprocité affective, cette manipulation devient légitime et elle est couronnée de succès à long terme. Il ne s'agit donc pas tellement d'éviter la mort de la race humaine ou de prolonger une création à bout de souffle, pour moi. Si les biosculpteurs s'entendent sur un horizon et non sur un projet, c'est en fait sur la perspective de voir remplacer la race humaine. Ils envisagent sans problème la continuation de la vie en général sous des formes différentes. A contrario, les fanatiques, les escatoïdes de Janus, les terroristes, voient d'un très mauvais œil toute prolongation parce qu'ils pensent que c'est la fin du monde, parce que c'est la fin de leur monde à eux, leur race étant condamnée. Et ils sont extrêmement opposés à toute forme de création, fût-elle secondaire comme celle des artefacts. Donc le rapport parent-enfant est assez clair dans tous les textes évoquant la création des artefacts, souvent même au premier degré. Et là, il est pour moi inséparable de la relation créateur-créature, qui est quelque chose qu'on trouve dans tous les textes. Les auteurs écrivent tout le temps la même chose. On s'écarte de la notion de pouvoir du créateur pour entrer dans celle de sa responsabilité. Si l'on considère de nouveau le titre de la communication de mon ami Roger, le motif qui m'intéresse quant à moi, ne serait pas tellement l'affirmation, promesse, tentation, vous serez comme des dieux, mais plutôt un questionnement mieux en rapport avec le mouvement essentiellement spéculatif de la science-fiction. La question « et si ?» Alors ça se formulerait comme ceci, vous désirez être comme des dieux ? Et si vous étiez des dieux ? En comprendriez-vous toutes les exigences et toutes les responsabilités, et seriez-vous prêt à les accepter? C'est la question à laquelle Frankenstein a donné la mauvaise réponse, puisqu'il a un réflexe de terreur-horreur immédiat dans sa créature, et c'est aussi celle à laquelle le mythe grec n'avait pas donné la bonne réponse, puisque Prométhée est puni pour avoir essayé d'enfreindre le diktat divin. Combien de temps il reste là?
5 minutes.
Ok. Les textes tournant autour du pont et du voyage, c'est la divinité sous un autre angle. On y trouve la même problématique qui est celle du dosage et de l'équilibre entre des pôles apparemment opposés. Mon imaginaire fonctionne par oxymoron, par couple apparemment antithétique mais en réalité complémentaire et dont le sens profond exige un saut mental, une espèce de changement d'univers. C'est ce qui arrive par exemple dans la dynamique du pont. Le pont fonctionne par l'arrêt du mouvement des molécules au voisinage du zéro absolu, et c'est cet arrêt du mouvement qui déclenche le mouvement absolu qu'est le voyage, puisqu'on bascule, non pas dans notre univers à nous, mais dans d'autres univers. Le voyage ne permet pas de voyager dans notre univers, sur les planètes de notre univers, mais bel et bien d'un univers à l'autre. Et ce qui déclenche chez une des utilisatrices de ce pont, Catherine, dans justement... Le pont du foie, la première nouvelle du cycle, la réflexion qu'elle veut être Dieu, la dernière, parce qu'elle s'imagine que le pont permet de flotter divinement au-dessus du temps et de l'espace, puisqu'il permet de voyager d'un univers à l'autre. Et elle détruit son pont derrière elle, elle sera donc la dernière à être Dieu. Et évidemment, oxymoroniquement encore, ce désir arrogant de pouvoir absolu se résulte en une absence totale de pouvoir, puisque elle va être confrontée à une espèce d'existence enfantine, infantile, quasiment préhumaine, en suivant la trajectoire des indigènes du lieu, qui, jeune, adolescent, part dans une espèce de quête initiatique, dont il ne s'agit pas, et le texte le dit très clairement, d'une quête ni d'un rituel. On peut le lire comme tel, mais il s'agit de biologie. Je cite, « Ce n'est pas une coutume dictée par la société, donc un rituel, c'est un appel qui vient du plus profond d'eux-mêmes. » Le « être Dieu, la dernière » de Catherine trouve son écho dans le « être Dieu, la première » de son double, Catherine plus âgée qui, inventeuse du pont dans son propre univers, a décidé d'en devenir la première cobaye par arrogance. Mais elle connaît la même trajectoire que Catherine, la jeune Catherine, mais comme elle a eu plus de temps pour comprendre de quoi il s'agit, et elle lui dit « Être Dieu, te dis-tu, non dans un univers, mais dans tous les univers ?» Pas dans tous, Catherine, seulement dans ceux qui ressemblent assez au nôtre pour que le pont s'y trouve aussi, ou presque ceux dont on peut revenir. Alors ce motif du retour et de l'autre, c'est pour moi le motif essentiel du jeu des coquilles de Nautilus. L'héroïne du jeu des coquilles de Nautilus a également un projet hubristique. Elle veut rencontrer Dieu, elle veut rencontrer l'être absolu, l'autre absolu. Qu'est-ce qui est l'autre absolu, sinon Dieu. Elle veut sauter de notre arbre à l'univers pour aller dans celui où il y a des consciences et des êtres vraiment non humains. Et alors elle est punie de cette hubris, puisqu'elle se retrouve coincée sur une planète dont elle ne peut plus repartir. Elle n'est pas coincée par une punition divine. Ce sont les voyageurs eux-mêmes qui dirigent le voyage, sauf qu'au début, ils n'en ont pas conscience. C'est une espèce de trajet pseudo-parapsychanalytique. C'est seulement quand ils prennent conscience que ce sont leurs pulsions qui les mènent, qu'ils peuvent à ce moment-là contrôler le voyage et éventuellement revenir. Les Arévagues, qui accueillent Kalita, sont une race amphibie, bactérienne en complémentarité. Ils ont effectivement un mythe de création très complexe que Talita, qui est une rationaliste évémériste, interprète comme l'écho déformé de la naissance biologique de leur race. Ils n'ont pas à proprement parler de rituel religieux, à part cette marelle, qui est un jeu d'enfant, qui n'est pas désigné comme un rituel. Et ce qui se passe dans le cercle qui entoure le vieux Pilki avant sa disparition, c'est un mot qui tourne, des sons. Ce que Talita n'interprète pas comme de la magie, mais comme une technique différente qui dépasse ce qu'elle considérait comme de la technique et l'invite à s'ouvrir sur une conception plus large de ce que c'est qu'une technique, un rééquilibrage entre technologie et connaissance. L'oiseau de cendre évoque aussi ce rapport aux machines, au pouvoir des machines qui est fantasmé et donc excessif. C'est un texte qui a été écrit dans un atelier d'écriture. On devait l'écrire en 24 heures sur trois mots tirés au sort. C'est un matériau plus aléatoire et donc peut-être plus révélateur. En perdant le contrôle de la vue, Thomas, qui s'appelle Thomas, c'est-à-dire Thomas, c'est-à-dire pour moi, Thomas l'incrédule, et donc la position par rapport au religieux va être assez particulière, en renonçant au sens de la vue, en perdant le sens de la vue, Thomas perd sa capacité de contrôler ses machines. C'est-à-dire qu'il perd sa capacité d'être créateur, de devenir poète. Et quand il dit non aux yeux artificiels qui pourraient lui donner un sursis, c'est il refuse de ne plus pouvoir être poète. Et comme la Catherine suicidaire du Pont du Foie, comme Talita, la voyageuse du jeu des coquilles d'Attilus, en proie à la dépression coincée sur sa planète, c'est à partir du fond, littéralement et oxymoroniquement, qu'il va rebondir vers le haut. Comme le souligne justement la lecture de Roger, c'est dans ce texte qu'on approche le plus du motif des religions, mais c'est aussi dans ce texte qu'on trouve le plus, pour moi, de surlecture dans ce sens. Au départ, on a l'impression... J'ai eu l'impression, en écoutant Roger, que Thomas est converti. Or, pour moi, encore une fois, c'est pas du tout ça qui se passe. Au départ, il est jaloux des indigènes qui peuvent faire avec de la poussière et leur capacité télékinétique sans rapport avec des machines, ce que lui ne peut plus faire avec ses machines, puisqu'il croit qu'il dépend de ses machines. C'est leur capacité de raconter sa machine qui le fascine. Il essaie de revenir aux mots, mais ça lui semble dérisoire, il n'a pas fait le deuil de son projet de maîtrise. Et c'est par curiosité, par désir de voir une dernière fois, par désir de savoir, un petit peu Adam et Ève avec le fruit défendu, qu'il va suivre les indigènes dans les profondeurs du rift. Et c'est seulement quand il prend conscience du moment, quand il prend conscience de la faculté télépathique des indigènes qui le touche, lui, diantre, il est donc télépathe lui-même, il l'ignorait, et c'est pour ça que ses performances publiques marchaient, alors que ses performances retransmises ne marchaient pas aussi bien. Être un poète technologique ne satisfaisait pas du tout. Son chemin spirituel change d'orientation à ce moment-là. Et là, il renonce délibérément à la vue. Il ferme ses yeux de chair pour pouvoir avoir accès aux images que lui transmettent l'autre indigène. Mais, certes, il va connaître l'illumination d'une épiphanie, mais on est dans le monde naturel, pas du tout dans le monde surnaturel. Thomas perçoit la manière dont les Pyréis croient vraies leurs croyances, mais ils ne les partagent pas. L'oiseau de cendre qui flotte dans le vent de l'abîme ou les images transmises par le vieux chef, ce sont des symboles, des manifestations naturelles, issues de pouvoirs physiques, des pouvoirs psy. Elles ne sont pas interprétées ni comme surnaturelles, ni comme divines par Thomas. Alors il fait l'expérience du sublime, certes, c'est une expérience spirituelle, religieuse au sens large, mais en deçà d'une expérience directe du divin, on est bien d'accord. Et surtout, il ne se sent pas appelé, sinon par lui-même. Parce qu'il n'y a pas suicide dans le pas en avant, il n'y a pas... Ok, Roger parle de sacrifice volontaire. Dans ce cas-là, il faudrait demander à qui et à quoi. L'expérience du sublime, pour Thomas, c'est la prise de conscience qu'il y a un sens de l'univers, mais pas d'autre sens que celui que lui donne, que nous lui donnons. Il comprend qu'il a toujours été le dieu de sa création et qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre sens à l'univers. Et cette illumination de Thomas se présente sous forme d'hypothèse, même, ce n'est pas une certitude. Et c'est une relecture. Il se réapproprie le mythe des Pyréis, il le relit, et en y projetant sa problématique personnelle, comme tout bon lecteur, il redevient créateur parce qu'il s'est réapproprié le texte. C'est la même chose pour Talita, qui renonce à son projet et qui accepte d'explorer. Oups. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Elle accepte d'explorer l'espace du dedans plutôt que l'espace du dehors, parce qu'il y a peut-être plus d'espace dedans que dehors. Elle renonce à l'espèce de manie centrifuge qu'elle avait du voyage, parce qu'elle sautait, elle n'attendait jamais, les autres ne l'intéressaient pas, elle voulait Dieu, elle voulait l'autre absolu. Et là, elle est obligée d'accepter l'autre qui s'appelle Tilita, il y a une lettre de différence. Et elle renonce en fait, à la quincaillerie SF, d'une certaine façon, dont Roger dit très bien que ce n'est pas l'essentiel de mes textes. Et là, je vais vous faire complice de mon délit d'initié, sinon de mon délire d'initié. Très longtemps, la science-fiction a été pour moi à la bonne distance par rapport à mon matériau personnel. La littérature psychoréaliste ordinaire, en étant trop proche, et la poésie, illusion d'adolescence, m'en étant perçue comme trop éloignée. Heureusement, j'ai découvert la science-fiction à ce moment-là, à 15 ans, ce qui m'a sauvée, je pense. Ces lieux exotiques et ces personnages, ces créatures étrangeoïdes et ces futurs lointains, ben, c'était pas moi. Je pouvais donc écrire en toute sécurité. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années avec Tiranael, que j'ai réécrit 4 ou 5 fois. Jusqu'au milieu des années 80, j'ai fait l'expérience de l'écriture à la bonne distance sécuritaire. Au cours des années 80, j'ai commencé quand même à sentir confusément que je n'avais plus autant besoin d'imagination et des machines de la quincaillerie SF. Et c'est ce que moi je lis, et ce que j'ai le droit de lire, dans L'Oiseau de Sang, par exemple, et dans Le jeu des coquilles du Nautilus. Je prenais conscience à ce moment-là, vers la fin des années 80, que c'était tout moi, ce matériau, si exotique peut-il me sembler, et que l'écriture ne peut en être autrement. J'étais en voie de devenir capable, par l'écriture, ce qu'elle entraîne d'inévitables révélations personnelles, de me voir moi-même, de me recréer moi-même par les mots. Ce qui était une manipulation réciproque, et donc acceptable, mais non, quoique non dénuée de péril. Et je dirais que le jeu des coquilles de Nautilus, comme tant d'autres de mes histoires, est pour moi une histoire d'écriture. C'est encore plus vrai pour L'Oiseau de Sang, qui est effectivement plus aléatoirement conçue et plus révélatrice. Je lis aujourd'hui bel et bien dans ce texte mon acceptation du fait que je n'ai plus absolument besoin de la science-fiction pour écrire. J'y lis surtout le début de mon abandon de l'obsession du contrôle, le début de mon abandon à l'écriture en tant que seule danse spirituelle satisfaisante. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de Dieu, je suis au mieux la relative déesse de ma propre religion, c'est-à-dire de mon écriture, mais j'en suis aussi la création, c'est correct. Au pire, je suis la disciple d'un sens hypothétique, obscur et informulé, que je cherche à tâtons à travers et entre les mots que j'écris. Et voilà, mesdames et messieurs, pourquoi votre fille n'est pas muette et pourquoi elle crée des mondes. Merci d'avoir été patient.